Don't shop for car insurance until you hear this one secret. Every day, insurance companies adjust their rates for one reason or another. They are constantly adjusting the prices for coverage, which means today, Company A has the best rates. Tomorrow, Company B. It's just like buying an airline ticket. How can you possibly know which company is the best match for you on any given day? Easy. Call WeSpeak Insurance. With their patented technology, WeSpeak Insurance matches thousands of consumers with the top insurance companies in America. WeSpeak Insurance is continuously updating the insurance companies and their formulas. Call WeSpeak Insurance and you'll know which insurance company is the best match for you. If you've just received your renewal, you bought a new car, or moved, WeSpeak Insurance will connect you with the best company for you. Today, get the best match whenever you shop for car insurance. Call WeSpeak Insurance. 855-901-5258. 855-901-5258. 855-901-5258.
Healing rain is coming down. It's coming nearer to this old town, to this old town. The rich and poor, the weak and strong, it's bringing mercy, it won't be long. Healing rain is coming down. It's coming closer to the lost and found. Tears of joy and tears of shame are washed forever in Jesus' name. I'm not.
Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend?
Oui. Je vous entends.
Ok. Voilà. Voilà. Parce que je n'entendais personne. Vous m'entendez mieux maintenant?
C'est ton fils qui t'entend, oui.
C'est mon fils qui m'entend. Oh, sois béni, mon fils adoré. Voilà. Amen. Donc, les autres, comment on appelle, les orateurs. Le frère Moulo est là?
Je suis à l'écoute.
Ah, d'accord, parce que c'est toi le principal, donc j'attendais que tu me dises amen. Voilà.
Amen.
Alors, sois béni, mon cher fils, là où tu es, que le Seigneur te bénisse.
Amen.
Amen.
Je suis très heureux que tu sois en ligne. Alléluia. Et Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Matthieu 11, verset 28. Bienvenue à tous, fidèles auditeurs, bienvenue au panel. Pasteur Daniel Goulia à DC, le prophète Henri Clovis Apoyolo à Dallas, le pasteur Jean-Paul Compo à Boston, pasteur Élisée Assemi à Montréal, docteur Adrien qui est toujours en mission en Angola, pasteur Légré Joachim en Côte d'Ivoire et pasteur Jachi, notre panel de Londres. Parole et vérité, l'évangile aux temps anciens sur Radio La Voix d'Afrique à la technique à Zocodier, que je salue, et au micro, j'en ai dit que votre servante. Nous sommes à notre émission d'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ. Matthieu 5, Éphésiens 5, versets 22 à 25 déclare « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la famille, le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous retrouvons notre frère, le docteur Moulango de Salem Gospel Ministry de Silver Spring, avec le vaste sujet portant sur la famille, le mariage, la femme, les enfants, le divorce, le remariage, les veuves et les orphelins. Bonsoir frère Moulo et merci encore pour ta présence.
Bonsoir.
Voilà. Alors, après la responsabilité de l'homme par rapport à sa femme, que nous avons étudié le 15 février dernier, nous abordons aujourd'hui la responsabilité de la femme par rapport à son mari, n'est-ce pas, docteur?
Exactement.
Alors, vous avez le micro, une heure d'enseignement.
Merci beaucoup. Je pense que je vais faire au moins d'une heure parce que les responsabilités des femmes sont moindres.
OK.
OK. Donc, nous remercions beaucoup Madame Jeannette pour encore cette opportunité qu'elle nous donne. Bien sûr, nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui nous a permis encore de nous retrouver ce soir, du moins ici aux États-Unis ce soir, sur la ligne pour parler de sa parole. C'est vraiment une grâce que nous avons. Alors, concernant le sujet qui nous a été donc demandé de développer, c'est le vaste sujet sur la famille et nous sommes en train de parler depuis quelques semaines déjà sur les relations dans le couple, donc le mariage, les relations dans le mariage. Et en guise d'introduction, nous aimons toujours rappeler que nous savons tous que le mariage est une institution divine et que le mariage est vraiment l'objet de beaucoup de troubles, beaucoup d'attaques de la part de l'ennemi. Et nous avons des taux aujourd'hui de divorce aussi bien dans les familles chrétiennes que non chrétiennes, qui avoisinent presque 50%. Et avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer dans la vie des personnes qui vont, dans la vie des personnes qui expérimentent ou qui connaissent ce drame, donc que ce soit l'époux ou l'épouse ou les enfants. Alors, donc nous voulons apporter quelques informations le plus humblement possible, tirés de la Bible, qui peuvent aider le couple à pouvoir stabiliser un peu le mariage. Parce que les problèmes dans le mariage sont nombreux, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage, et ça vient de toutes parts. Et ça serait vraiment prétentieux de pouvoir évoquer tous ces problèmes ici sur la ligne. Mais ce que nous pouvons faire, c'est apporter une lumière, apporter une information, où le couple peut agir, c'est-à-dire c'est au niveau du couple. Qu'est-ce que le couple peut faire? Quelle est la responsabilité du couple pour stabiliser le mariage, pour éviter que le mariage soit en proie à des attaques et à des troubles. Parce qu'on peut bien jeter la faute sur le diable ou bien sur l'ennemi, mais il y a des choses que nous pouvons faire dans le cadre du mariage qui peuvent nous mettre déjà à l'abri, qui peuvent déjà élaguer certains problèmes qui sont réels. Mais lorsqu'on applique la parole de Dieu, lorsqu'on essaie d'être humble par rapport à la parole de Dieu, on peut déjà arriver à résoudre quelques problèmes sans que cela ne prenne des dimensions dramatiques et que cela puisse déborder vraiment sur des séparations, des divorces et toutes les conséquences. Donc c'est sur ce plan-là que nous voulons un peu intervenir. Donc c'est juste la responsabilité interne. En tant que membre du couple, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux faire pour améliorer mon mariage, pour stabiliser mon mariage? Et moi, qu'est-ce que femme, je peux faire pour améliorer, stabiliser mon mariage afin de pouvoir éviter des dérapages qui peuvent amener à des conséquences que parfois on ne peut plus réparer ou bien regrettables tout simplement. Alors, c'est dans cette optique-là que nous faisons ces enseignements et sur base de la parole de Dieu dont nous avons dit que pour juste résumer en deux mots ce que nous avons dit à propos de la responsabilité de l'homme, nous avons dit que la vision de Dieu sur le mariage est reprise dans Éphésiens 5, comme Madame Dick venait de le dire. Donc tout ça, lorsqu'on lit Éphésiens 5, nous avons la vision de Dieu. Alors ce que j'aime bien chez l'apôtre Paul, au verset 25, donc Éphésiens 5, 25, il résume un peu toute la vision que Dieu a, en une phrase. C'est comme s'il vous dit, vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit, mais ce que je vous dis maintenant, n'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'il dit, Éphésiens 5, 25? Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc ça, c'est le résumé, toute la résumée de la vision de Dieu sur le mariage. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu a mis l'homme et la femme dans la relation du mariage, il s'attend à ce que chacun remplisse un devoir, c'est-à-dire Dieu nous a créés séparément, il nous a créés différemment. L'homme et la femme ont deux besoins différents. Et ces besoins sont, c'est le mariage, dans le cas du mariage, que la femme trouve satisfaction à ses besoins et l'homme trouve satisfaction à ses besoins. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, cela crée des problèmes, cela crée des frustrations. Et lorsque dans le couple, les gens ne sont pas conscients qu'ils doivent répondre aux besoins du partenaire, ou bien ils sont conscients mais ils refusent de répondre à ce besoin, ils créent des frustrations. Soit c'est l'ignorance, soit c'est tout simplement on néglige ou on sous-estime ces besoins. Alors on se dit que non, je réponds à certains besoins, mais à d'autres besoins je ne réponds pas. Justement, ce sont ces besoins-là auxquels on ne répond pas, de par notre expérience, de par les couples que nous avons accompagnés. Ces besoins-là qu'on néglige de répondre, ce sont justement ces besoins-là qui créent des problèmes. Donc c'est pour ça que nous voulons informer les couples que non, de prendre leurs responsabilités. L'homme doit prendre ses responsabilités, la femme doit prendre ses responsabilités. Et si Dieu a résumé sa vision comme ça, c'est parce qu'il sait. Il sait très bien qu'il a créé la femme avec un besoin de se sentir aimée. Toute femme dans le mariage a besoin de se sentir aimée. Et c'est la responsabilité de l'homme. Chaque homme doit découvrir quelle est la manière, quelle est la façon qu'il peut exprimer l'amour à sa femme. Chacun, c'est de cas par cas. Mais l'homme doit s'engager, dit que non, moi, ma femme, elle se sent aimée quand je fais ça, 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 ça. C'est comme ça que ma femme se sent aimée. Et quand je ne le fais pas, la femme interprète ça comme un manque d'amour et ça crée des problèmes. Donc, c'est ma responsabilité à moi, c'est d'identifier quelles sont les expressions d'amour, puisque la femme a besoin de se sentir aimée. C'est ce que la Bible dit, du reste l'homme, aimez vos femmes. Donc l'homme doit s'investir, il doit prendre du temps pour s'investir, essayer de comprendre quelles sont les expressions d'amour, quelles sont les choses que ma femme s'attend à ce que je fasse afin qu'elle se sente sécurisée, qu'elle se sente aimée. Et c'est son devoir, il doit le faire, il ne doit pas négliger ça. Si elle dit que non, elle veut que chaque matin que tu me fasses une bise sur le front, c'est ça son expression. Il ne faut pas que tu dises que non, ça c'est banal. Moi, je paye déjà le loyer, je paye l'eau, je paye le courant, je me réveille très tôt le matin pour aller travailler. En tout cas, la bise là, vraiment, ça, tu ne l'auras pas. Oui, ça fait rire. Je vous dis que ça fait rire, mais je vous dis que pour la femme, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. C'est pour ça que nous voulons réveiller les hommes. Ça peut être banal. Ça peut être aussi banal qu'une bise sur le front. Mais c'est ça qui crée des problèmes sérieux, je vous assure. S'il y a des femmes qui nous entendent, j'espère qu'elles vont témoigner, mais je vous assure que nous avons vu ça. Nous avons vu ça. Donc l'homme doit pouvoir tenir compte de cela. Et c'est ça, la femme a besoin de ça. Elle a besoin de savoir que non, mon mari m'aime. Et ces expressions-là, le mari doit pouvoir répondre à cela. Et lorsque le mari ne répond pas, lorsque soit il ignore, soit il ne sait pas, soit d'une manière ou d'une autre, il ne répond pas à cela, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, comme on va le voir tantôt là. Alors, de l'autre côté, la femme, le mari dit, femme, respectez vos maris, respecte le mari. Et ça, c'est encore Dieu qui le dit. Ça, c'est le résumé de la vision de Dieu. Dieu a créé les hommes avec un certain ego, avec une certaine masculinité, qui fait que l'homme peut tolérer beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'il ne tolère pas, c'est qu'on lui manque du respect. Quand lui manque du respect, on a vu des guerres entières qui se sont passées, on a vu des chefs d'État qui ont été déboulonnés parce qu'on les a manqué du respect. Vous savez que, bon, je ne vais pas citer des temps ici, moi je sais qu'en Afrique, il y a eu des gens qui ont manqué du respect à un autre chef d'État ou bien à quelqu'un, et voilà, ça a déclenché la guerre parce qu'on a manqué du respect. Et ça, c'est quelque chose, Dieu a mis en nous comme ça. Alors, une femme peut avoir, et on va entrer dans les détails, et alors, nous voulons juste apporter la lumière, que dans le couple, chacun soit conscient de cela, et afin d'éviter des dérapages. Donc ça, c'était un peu le résumé de la fois passée. Et donc aujourd'hui, nous allons entrer un peu en détail concernant ce que la femme peut faire pour sécuriser son mariage, pour raffermir ses relations de couple. Alors, comme nous venons de le dire, la femme a des attentes. La femme a des attentes. Elle attend que son mari puisse exprimer l'amour. Alors, la première chose que nous voulons conseiller aux femmes, c'est de trouver le moyen de communiquer clairement leurs attentes. Ça, c'est très important. Parce que dans la plupart des cas, le mari pense qu'il connaît comment il doit aimer sa femme. Et la femme assume ou suppose que le mari doit connaître. Et on évolue dans une incompréhension. Chacun est dans deux diapasons différents. Le mari pense que lorsque je paye l'eau, je paye le courant, j'achète des habits à ma femme, c'est ça, c'est bon. La femme dit que non, elle veut autre chose. Mais elle ne l'a jamais exprimé clairement. Et ça, c'est un problème. Donc nous conseillons aux femmes de pouvoir trouver le moyen d'exprimer, de communiquer clairement au mari que non, de trouver le temps, de communiquer avec amour, avec respect, avec humilité, mais de manière très claire. Et nous, dans notre église, on faisait ça à l'époque. À la fin de l'année, on demandait à l'homme d'écrire une liste des choses qu'il reproche à sa femme et une liste des choses qu'il voudrait voir sa femme faire. Et la femme faisait pareil. Voilà la liste des choses qu'elle reproche à l'homme et une liste des choses qu'elle aimerait que l'homme commence à faire. Et on demandait à chacun de garder cette liste et de faire l'évaluation à la fin de l'année pour voir comment il a répondu à cela. Et ça, c'est important. C'est important de savoir que non, ma femme veut ça, ou bien ma femme n'aime pas ça, et faire un effort pour répondre. Donc, les femmes doivent faire vraiment cet effort-là de communiquer. Lorsque elles ne communiquent pas, je vous assure que cela crée des problèmes. Comme je l'ai dit, le mari suppose, la femme suppose. Et lorsque le mari ne répond pas aux besoins, ça crée des frustrations chez la femme. Et c'est réel, ça crée des frustrations. La femme se sent frustrée parce que le mari ne répond pas à ses besoins. La fois passée, j'ai qualifié ça des besoins matrimoniaux essentiels, non couverts. Mais c'est essentiel, c'est important. Et les frustrations, croyez-moi, c'est une mauvaise chose parce que les frustrations, ça s'accumule petit à petit, et à la longue, ça crée ce qu'on appelle le ressentiment. Ça crée l'amertume. Et il n'y a pas mieux que le ressentiment, il n'y a pas mieux que l'amertume pour tuer l'amour, pour détruire l'amour. On peut voir un couple qui s'aimait, qui s'adorait, mais à cause de ces petites négligences, à cause, comment je peux dire, de cette ignorance parfois,
petit à petit, les frustrations se créent chez la femme un sentiment d'amertume. Et ça détruit l'amour, ça détruit vraiment l'amour. Et après 3, 4, 5 ans, on a l'impression qu'il y a deux étrangers qui vivent dans la même maison. Parce qu'on n'a pas fait attention à cela. Et lorsque nous lisons dans Hébreux 12, 15, la Bible est claire. La Bible dit, veillez à ce que, Hébreux 12, 15, la Bible dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. C'est vraiment sérieux cette histoire de l'amertume qui s'enracine dans le cœur d'une personne. L'amertume qui est le fruit des frustrations accumulées commence à s'enraciner. La Bible dit que ça empoisonne plusieurs, donc ça crée un malaise. Et ce malaise détruit les relations du couple. C'est pour ça que je dis que ça, c'est la responsabilité dans le couple. Ce n'est pas quelque chose qui vient de dehors. Ce n'est pas quelqu'un qui vient créer des problèmes, la belle-mère ou la belle-fille, ou bien, je ne sais pas moi, le beau-père. Non, ça, c'est dans le couple. Le couple ne fait pas attention aux besoins de l'un et de l'autre. Et voilà les conséquences. Et les conséquences des frustrations, ça, je vous le dis, nous avons été témoins de cela. C'est que ça donne l'accès au diable maintenant. Le diable maintenant profite de ces frustrations maintenant pour pouvoir créer des situations encore plus difficiles à contrôler. C'est pour ça que Éphésiens 4, 26, 27 dit, mettez-vous en colère, d'accord, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il faut arriver à évacuer cela. La colère que vous avez, il faut arriver à évacuer ça. Mais lorsque vous ne l'évacuez pas, vous accumulez ces frustrations et on a des conséquences. On a des conséquences sur le plan de la santé. C'est pour ça que je dis que les femmes doivent communiquer. La communication aide. Ça aide d'abord à évacuer cette frustration-là. Mais lorsque vous ne communiquez pas la frustration, on accumule la frustration. Ça a des répercussions. Des répercussions sur le plan psychologique. Vous voyez des femmes qui ont des insomnies, qui ont l'anxiété. Il y a même la dépression qui s'installe. Et souvent, lorsque la femme est chrétienne, elle craint Dieu, elle ne veut pas le divorce ou la séparation. Elle reste à la maison, mais elle est malheureuse. Et ça s'exprime physiquement sur son corps. Vous voyez des femmes qui souffrent d'hypertension, de diabète, des migraines, des crises d'estomac, des crises d'angoisse. Tout ça, ce sont des problèmes réels que la femme vit physiquement. Mais dans l'origine, ce sont les frustrations qui ont été accumulées et qui n'ont pas été évacuées. Et donc ça, c'est sur le plan physique. Donc j'ai dit qu'elle peut avoir des problèmes psychologiques tels que l'anxiété, l'insomnie, la dépression, mais aussi on a des problèmes physiques tels que l'hypertension, le diabète, les migraines. Donc ce sont des diabètes. Le diabète, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire on a une prédisposition génétique, mais les frustrations-là favorisent. Ça favorise, c'est pour ça que je dis, on donne accès au diable. Le diable profite pour déclencher une crise de diabète. Bien sûr, on peut avoir des problèmes au niveau de l'harmonie du foyer, l'harmonie du couple. Lorsque ces frustrations sont accumulées, la femme devient extrêmement irritable vis-à-vis de ses enfants. Donc, elle commence à gronder ses enfants pour un rien, des colères qui sont disproportionnées à la faute commise par l'enfant. Et on se demande, mais pourquoi tu réagis comme ça? L'enfant n'a cassé que le verre. Mais ça, ce sont des frustrations. Et la maison devient comme un champ de bataille. Hein. Et c'est normal, une femme qui est frustrée comme ça, c'est difficile qu'elle soit soumise à son mari. Donc ça sera des querelles, hein, des querelles tout le temps. Donc l'harmonie du foyer est menacée à cause de ces frustrations qui ont été accumulées. Et ces frustrations viennent du fait que ses besoins n'ont pas été satisfaits. Donc on a des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes sur l'harmonie du couple. On a aussi des problèmes spirituels, et ça c'est grave, parce que lorsque une femme est frustrée, lorsque l'amertume s'installe dans le cœur, c'est difficile qu'une femme soit en communication avec Dieu, c'est difficile qu'elle puisse venir devant son Dieu et prier de manière sincère, parce que son cœur est rempli de rancœur, son cœur est rempli d'amertume, et cela l'éloigne forcément de Dieu. Alors imaginez-vous un peu, une personne qui a rompu sa relation avec Dieu, rompu sa relation quotidienne avec Dieu, elle est à la merci de tout. Donc, c'est quelque chose que nous avons été témoins de ces choses. C'est pour ça que nous voulons apporter un peu la lumière à cela. Que les frères et les sœurs qui nous écoutent ne négligent pas ces choses-là. Ce sont des choses réelles qui se passent dans les couples. Un beau matin, une femme décide parfois de partir, de se séparer de son mari, et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Le mari va dire que non, tout a commencé le soir où je ne lui ai pas souhaité bon anniversaire, ou bien ce soir-là, on avait un rendez-vous au resto, je ne suis pas allé. Et elle a décidé de partir. Mais le mari ignore que ça, c'est la goutte, tout simplement. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Hein? Donc, il a été de manière récurrente. Il a raté ses rendez-vous, il a raté ses petites attentions. Il a fait ça de manière récurrente et ça a créé tellement de frustrations. Et un beau jour, il va se plaindre. Ah, je ne comprends pas, ma femme a décidé de partir parce que ce jour-là, j'étais en retard de 5 minutes pour je ne sais pas moi quoi. Et ça, c'est la goutte. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais il ne comprend pas cela. Donc, c'est important de pouvoir être informé de cela. C'est important de pouvoir considérer cela lorsqu'on on est informé et de pouvoir répondre à cela de manière adéquate. Et c'est pour ça que je dis le premier point, que les femmes doivent arriver à communiquer clairement à leur mari. Et communiquer cela, ou bien réclamer cela à son mari, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de soumission. La confrontation est biblique. Hein, la Bible demande qu'on puisse confronter. On voit plusieurs épisodes dans la Bible où il y a eu des confrontations bibliquement. Lorsque nous lisons par exemple dans Galates 2.11, ça c'est l'apôtre Paul qui confronte Pierre. Galates 2.11 dit ceci: « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. » Donc ça c'est pour illustrer que la confrontation n'est pas un péché. Lorsque on est devant un cas, la femme a le droit de parler, de s'exprimer. Et comme je l'ai dit tantôt là, le fait de s'exprimer, c'est déjà thérapeutique parce que ça aide la femme à évacuer déjà cette frustration, ce stress-là, ça aide. Et c'est thérapeutique parce que ça l'empêche d'aller dans les conséquences psychologiques, physiques, émotionnelles que je viens de décrire ici. Et c'est pour ça que l'homme ne doit pas empêcher sa femme de parler. L'homme doit laisser parler sa femme, même s'il n'est pas d'accord, même s'il ne va pas suivre ce qu'il va dire, mais au moins qu'il la laisse parler. Qu'il la laisse parler parce que ça l'aide à évacuer ses frustrations. Et voilà, donc la première chose dont j'ai dit, c'est la communication. Il faut arriver à communiquer clairement. Il faut arriver à faire passer le message dans l'amour et sans s'affronter, mais tout simplement à expliquer au conjoint, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que j'espère que tu vas faire. Et voilà, et ça c'est soutenu par Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15, la Bible dit ceci: « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. » Donc Éphésiens 4, 15 nous encourage à nous exprimer. Il faut exprimer l'amour, la vérité avec tout amour. Donc exprimer. Donc il faut s'exprimer. C'est très important de s'exprimer. Un couple qui ne communique pas, un couple qui ne parle pas, c'est un couple qui est en danger parce que chacun suppose, sous-entend et croit. Donc moi j'ai cru que tu avais compris. Moi je pensais que tu pensais. Moi et c'est, il faut lever les malentendus. Il faut parler, il faut communiquer et que ça soit bien clair. Donc j'encourage les femmes qui sont en couple de parler clairement. S'il y a des points où le mari ne répond pas, surtout sur le plan où elles doivent se sentir aimées, il faut communiquer clairement parce que la réalité, ça c'est vraiment la réalité. 89% des hommes sincères et des hommes vraiment honnêtes ignorent complètement comment leur femme voudrait être aimée. Ils ignorent de bonne foi, ils ignorent parce qu'ils ne le savent pas. Ils supposent, ils pensent qu'ils connaissent, ils assument parce qu'ils sont des hommes, mais ils ignorent. Ils ignorent jusqu'à ce qu'on leur dise. Donc il faut parler. Donc ça c'est le premier point. Alors le deuxième point, la femme doit apprendre la soumission. Ça c'est la Bible qui le dit. Un femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Donc, je sais que c'est un sujet que beaucoup de femmes n'aiment pas aborder, mais il faut comprendre ce que c'est que la soumission dans l'Esprit de Dieu. Je crois que pour définir la soumission, la meilleure façon de définir la soumission, c'est de dire c'est qu'est-ce qui n'est pas la soumission. Donc, comme ça, on peut avoir une bonne idée. Donc, ce qui n'est pas la soumission, je peux déjà dire que la soumission ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Non, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Soumission, cela ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11 à 12, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. » 1 Corinthiens 11 à 12. Mm-hmm. Donc, je lis au nom du Seigneur. « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Galates 3, 28 dit ceci, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. » Donc ces deux versets veulent tout simplement dire qu'il y a une égalité, il y a une équité. Nous sommes égaux devant Christ. Donc la soumission ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Ce n'est pas vrai. La soumission ne veut pas dire que la femme doit rester silencieuse, que la femme ne doit pas parler. Non, c'est faux. Nous venons de lire dans Éphésiens 4, 15, la Bible nous recommande que nous devons nous exprimer, donc on dit en exprimant la vérité dans l'amour. Donc, la Bible nous recommande de nous exprimer. Donc, la soumission, ce n'est pas que la femme doit se taire. Ce n'est pas ça. La soumission, ce n'est pas que la femme doit rester absolument à la maison et ne doit pas avoir des activités en dehors de la maison. Non. Ce que nous disons ici, nous reconnaissons, et ça c'est biblique, nous reconnaissons que la première responsabilité de la femme mariée, ça on le reconnaît, ça c'est la Bible qui le dit, la première responsabilité de la femme mariée, c'est de servir son mari et sa maison. Ça c'est la première responsabilité. Et si elle remplit ses responsabilités, elle peut avoir d'autres responsabilités en dehors de son foyer, tant que cela ne se fait pas au détriment de sa première responsabilité. Donc la Bible enseigne une balance. Et nous pouvons lire dans Titus 2. Titus 2, 4 à 5.
Titus ou bien Tite? Tite.
Bon, oh, ouais, c'est en anglais, sorry. Tite. Il y a Tite 2.
Oui, mais moi je suis, hein.
Bien, merci. Des disciples de Béret.
Okay. Yeah, oui, donc, c'est ça.
Oui, oui. Donc, vous pouvez lire pour nous alors, maman. Tite 2.
Non. Allez, on va gagner du temps. 6, 2.
OK. Donc, Tite 2, 4 à 5.
4, 5.
J'y vais. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but de faire quoi? D'apprendre aux jeunes femmes. Elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, Tite dit bien que les femmes doivent donner des instructions afin d'apprendre, donc les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc la première responsabilité d'une femme mariée, c'est de servir son foyer, son mari et ses enfants. Mais cela n'empêche pas qu'elle puisse avoir des activités à l'extérieur de son foyer. Et cela, d'ailleurs, nous encourageons cela parce que ça aide à son épanouissement. Parce que lorsque vous passez tout le temps à la maison, surtout si vous avez des enfants à bas âge, vous avez besoin aussi de ce qu'on appelle une pause. Et nous encourageons les maris qui ont des enfants à bas âge, dont les femmes s'occupent totalement des enfants, surtout ici en Occident où on n'a pas la grâce ou la chance d'avoir la famille élargie à côté de nous. Donc toute la charge retombe sur la femme. Nous encourageons les maris à pouvoir s'organiser et donner nos fils une journée ou une demi-journée à la femme où elle est loin des tâches domestiques parce que c'est épuisant. S'occuper des enfants, surtout à bas âge, c'est épuisant. C'est épuisant et ce sont des tâches difficiles. Et lorsque un mari est un leader dans le sens de Dieu, parce que le leader dans le sens de Dieu, c'est le leader serviteur. Un leader, c'est celui qui sert. Il doit s'arranger de temps en temps à soit rester s'occuper des enfants, soit que permettre que sa femme ait des activités en dehors de la maison, ça la permet de se défouler, ça la permet de changer d'air, ça la permet soit aller aux études, soit avoir un travail, soit avoir une activité avec d'autres femmes, hein, d'autres amis, à l'église, n'importe quoi, mais qu'elle soit loin des enfants pendant un temps, ça aide pour sa reconstitution, pour sa santé, c'est vraiment important. Donc la femme n'est pas condamnée à rester à la maison, elle doit pouvoir aussi avoir des activités à l'extérieur de la maison, mais sans se défouler de sa tâche, de sa responsabilité, sans se défiler de sa responsabilité primaire, qui est de s'occuper, de servir son foyer. Et pour soutenir cette idée que la femme peut avoir des activités à l'extérieur, Proverbe 31 qui décrit la femme idéale, Proverbe 31, nous allons lire juste le verset 15 et 16, la Bible dit, la femme idéale donc, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. La Bible ajoute, elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc ici la Bible montre le verset 15 où la femme s'occupe de la maison, mais au verset 16, elle a aussi un champ. Elle a aussi un champ en dehors de son en dehors de sa maison où elle travaille, où elle a planté la vigne. Donc, elle peut avoir aussi, comme on dit, un business en dehors de la maison. Donc, ça, c'est ce que Proverbe dit. Alors, ceux qui pensent qu'une femme soumise doit absolument rester à la maison et ne pas avoir des activités à l'extérieur de la maison, ce n'est pas biblique. Alors, la soumission ne veut pas dire aussi que la femme doit tolérer des abus. Hein, nous avons des hommes qui sont extrêmement, qui abusent des femmes physiquement, émotionnellement. Non, la femme soumise ne doit pas tolérer des abus. Elle a le droit de se protéger contre les abus. Et la première façon, c'est de confronter le mari. Et ça, nous appliquons Matthieu 18, 15-17. C'est quelque chose qu'on applique pour régler les conflits à l'église. Mais ça aide aussi à régler le conflit dans le foyer. Donc Matthieu 18, 15 à 17, c'est le même verset que nous utilisons pour régler les conflits entre frères, mais aussi dans le couple. La Bible dit ceci, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Donc on encourage la femme à parler d'abord avec son mari, à pouvoir confronter son mari, à exposer son mari, qu'est-ce qui ne va pas. Et ensuite, s'il n'écoute pas, s'il écoute, la Bible dit que tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de l'écouter, dis à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, il soit comme un païen ou un publicain. Donc ça, ce sont les différentes étapes que Matthieu recommande pour régler les conflits. Bon, nous utilisons pour dire que la femme ne doit pas tolérer, elle doit parler. Si son mari l'abuse, elle doit parler à son mari d'abord. Si ça ne va pas, elle va chercher les anciens à l'église. Et puis si ça ne va pas, et puis elle va chercher le pasteur et régler le problème devant le responsable de l'église. Alors, la soumission maintenant, bon, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Donc, si ce n'est pas tout ce que je viens de dire, la soumission, c'est tout simplement que la femme permet à ce que son mari soit le leader dans la relation. Donc c'est ça, la femme permet à ce que le mari soit le leader dans la relation, qu'il exerce son autorité. Encore une fois, cela ne veut pas dire que parce qu'il est supérieur, parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il a plus d'aptitude, non. Tout simplement, c'est parce que c'est le rôle que Dieu lui a confié. Donc, l'homme sera responsable devant Dieu par rapport à ce rôle que Dieu lui a confié d'être le leader à la maison. Donc, c'est sa responsabilité à lui. Dans toute entreprise, il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait un leader. Et c'est l'homme qui est le leader. Donc, lorsqu'une femme est soumise, c'est que la femme accepte que l'homme soit le leader et que l'homme ait l'autorité. Et donc, c'est ça. Et normalement, lorsque il y a des grandes décisions à prendre, ça se prend, on essaie de réfléchir ensemble. Et si on est d'accord, on prend la décision, des grandes décisions dans le couple. Mais si on n'est pas d'accord et qu'on a deux points différents, dans ce cas, c'est la vie de l'homme qui passe. Tant que cela n'est pas contre la Bible, tant que cela n'est pas un péché, c'est la vie de l'homme. Et la femme doit pouvoir soutenir cet avis. Et la femme doit pouvoir apporter son appui une fois que la décision a été prise. Donc c'est ça la soumission. Donc de manière pratique, cela veut tout simplement dire que la décision finale sur des sujets importants du couple revient à l'homme, et la femme doit soutenir son homme. Et ce que nous recommandons, lorsqu'il y a des décisions importantes, il faut mettre ça en prière. Et lorsque le couple met ça en prière, que vous avez une orientation qui vient de la part de Dieu, c'est beaucoup plus facile. Mais s'il n'y a pas d'orientation, alors l'homme a la responsabilité de prendre la décision parce que c'est lui qui sera responsable devant Dieu, parce que c'est la responsabilité que Dieu lui a donnée. Donc, nous avons dit que la femme doit communiquer. Nous avons dit que la femme doit apprendre la soumission, c'est-à-dire laisser à l'homme la charge d'être le leader dans le couple. Et la troisième chose que la femme doit apprendre, à être respectable. Être respectable, c'est ce que 1 Timothée 3:11 dit. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, une femme doit inspirer le respect, c'est-à-dire, tu dois avoir une femme qui est retenue. La femme doit avoir de la retenue. Elle doit savoir se comporter dans la société. Elle doit savoir se comporter par rapport à son mari. Donc, la respectabilité. La femme doit inspirer le respect par sa manière d'agir, sa manière de parler, sa manière de se conduire. Ça aide beaucoup dans le foyer. Lorsqu'il y a de l'arrogance, lorsqu'il y a de la légèreté, lorsqu'il y a des choses qui ne valorisent pas la femme, ce sont des choses que la Bible condamne et qui ne renforcent pas la stabilité du couple. Alors, le dernier point, c'est là nous allons terminer. La femme doit apprendre à respecter son mari. Et donc ça, c'est vraiment important que les femmes comprennent cela. S'il est vrai que la femme a besoin de se sentir aimée, l'homme a besoin de se sentir respecté. Et ça, vraiment, c'est très important. Parce que souvent, les femmes, elles pensent qu'elles peuvent parler à leur mari de n'importe quelle façon. Elles peuvent traiter leur mari de n'importe quelle façon. Cela n'a pas vraiment des conséquences. Elles ne trouvent pas ça, c'est le problème. Mais Dieu a créé les hommes de telle manière qu'ils sont frustrés lorsqu'on leur manque du respect. Même s'il est dans l'erreur, même s'il a commis la plus grande bêtise, la façon dont tu vas le reprocher, si c'est une façon qui n'est pas respectueuse, cela crée des problèmes. Il y a des maris qui ont pris leur clic et les claques parce qu'on les a manqué du respect. Donc, si on veut contribuer à la stabilité du couple, la femme doit comprendre cela, même si elle a raison, même si elle a vraiment, elle doit faire attention à la manière dont elle traite son mari, parce que ce sont des choses que les hommes supportent très peu. Ils tolèrent beaucoup les choses, mais quand leur manque du respect, ils ne tolèrent pas. Ça, c'est d'une manière générale. Je parle d'une manière générale. C'est des choses qu'il faut connaître d'une manière générale. Peut-être que ça s'applique pas à tous les couples, mais une bonne majorité des couples, cela s'applique. Alors, lorsque le mari, lui, il se sent respecté, lorsque sa femme le valorise, lorsqu'il pose des actions à la maison et que la femme lorsque c'est positif, la femme remarque ses actions et la femme le complimente. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Il aime qu'on reconnaisse ce qu'il a fait. Souvent, ce que les erreurs que les femmes commettent, c'est de passer leur temps à critiquer les points négatifs. Donc, tout ce que l'homme fait de bien, elle ne voit pas. Tout ce qu'il fait de mal, c'est ça qui revient, de manière récurrente. Et ça, ce n'est pas une bonne façon. Ça, c'est casser le moral. C'est vraiment casser le moral de l'homme. Il faut arriver à valoriser son mari, arriver à le complimenter, arriver à l'encourager. C'est un peu le traiter un peu comme un grand enfant, comme un grand bébé, comme on dit souvent. Good job. Il a toujours besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être poussé. Il a besoin d'être un peu traité un peu comme un petit prince là, comme c'est quand on a un garçon à la maison. C'est comme ça qu'il faut. Oui, c'est comme ça. Ce sont des petites astuces qui aident à détendre l'atmosphère, qui aident à décrisper l'atmosphère. Donc c'est ce que 1 Pierre 3, 9 disait. Bon, c'est entre guillemets, c'est un peu exagéré, mais c'est juste pour illustrer ce que nous disons. 1 Pierre 3, 6, la Bible dit, « Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » C'est d'elle que vous êtes devenus les fils, les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc ici, vous voyez, Sarah appelait Abraham son Seigneur. Bon, je ne dis pas que les maris doivent commencer à appeler les femmes doivent commencer à appeler leur mari Seigneur, Seigneur. Non, c'est juste pour montrer comment Sarah valorisait son mari, comment Sarah donnait de la valeur à son mari. Et c'est ça que les maris aiment entendre, qu'ils sont valorisés, mais pas vilipendés tout le temps. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur d'essayer de brosser un peu rapidement comment, sur le plan interne, entre couple, à l'intérieur du couple, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que membre du couple pour aider à améliorer la stabilité du couple, comment aider à améliorer les rapports dans le couple pour faire face un peu à tous les problèmes que le couple rencontre. Et c'est aujourd'hui, nous avons parlé de plus de la femme, nous l'avons exhortée vraiment à communiquer avec son mari, à lui expliquer clairement quelles sont ses attentes, et nous avons dit que dans cette communication, ça nous ne l'avons pas dit, mais nous avons dit dans cette communication, si le mari reproche des choses à la femme doit aussi être attentive pour changer ces choses. Et lorsque le mari est informé des plaintes de sa femme, le mari doit faire aussi attention pour essayer de répondre à ces plaintes. Nous avons démontré que lorsque ces plaintes ou bien ces besoins ne sont pas répondus, il y a des conséquences sur le plan psychique. On voit des femmes qui tombent dans des insomnies, des dépressions, des anxiétés. Sur les plans physiques, des maladies telles que l'hypertension, le diabète, des crises d'estomac. On a aussi des problèmes sur le plan de l'harmonie, l'harmonie au niveau du foyer, où la femme devient irritable avec des réactions exagérées, de colère contre les enfants. Il y a aussi un problème spirituel quand on a l'amertume, puisqu'on a dit que tous ces problèmes-là, ces besoins ne sont pas satisfaits, ça crée des frustrations. Et les frustrations, lorsque elles s'accumulent sur le temps, vont créer l'amertume. Et l'amertume va créer dans le ressentiment. Et nous avons dit que cela peut s'exprimer par tous ces troubles dont nous venons de citer. Et aussi l'éloignement avec Dieu. Et bien sûr, ça peut entraîner la séparation et le divorce. Donc il faut être attentif aux cris d'alarme. Souvent, les femmes font des cris d'alarme et les hommes doivent être attentifs à cela et répondre aux besoins de la femme. Nous avons dit que les femmes doivent apprendre ce que c'est que la soumission. Nous avons essayé de définir la soumission en disant ce qui n'est pas la soumission. Et nous avons parlé que la femme doit être respectable. Et enfin, nous avons parlé que la femme doit respecter son mari. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, nous avons été un peu brefs, mais on a essayé de parler sur des choses pratiques et concrètes afin d'aider un peu les auditeurs concernant la responsabilité de la femme. Je vous remercie.
Merci. Merci, homme de Dieu. Merci, frère Moulo. Est-ce que tu m'entends?
Très bien, très bien.
Ok. Alors, je voudrais savoir si Pasteur Assemi est en ligne, Pasteur Compo est en ligne, parce qu'aujourd'hui, on a une... Ok. Voilà, donc la technique me dit qu'il ne voit pas Assemi. Est-ce que Jean-Paul est en ligne? Ok. Voilà, parce que la technique aujourd'hui aussi occupait autre chose, donc on n'aura pas, on va certainement pas recevoir, prendre les questions des auditeurs. Il va les voir parce qu'il est occupé à autre chose aujourd'hui, encore.
Ok.
Et que ici, les gens vont à l'école tous les jours, hein. Voilà.
Absolument.
Ici, les gens vont à l'école tous les jours, les dimanches, ils ont cours et tout ça, donc Azo est parti à l'école encore. Voilà.
Ok.
Donc, c'est ça la réalité. Sinon, on n'a pas de problème technique. Il y a eu beaucoup de neige ici et donc des cours qu'il devait prendre. Il faut rattraper. Et bon, il était minoritaire quand ils ont voté, ben il n'avait pas le choix, donc il faut donc il est au cours, mais en même temps il nous a mis en ligne, donc il ne pourra véritablement pas nous transmettre des questions des auditeurs. C'est pour ça que je demandais si nos panélistes étaient là. Mais toutefois, s'il y a des auditeurs qui m'entendent, qui veulent parler, alors qu'ils appuient le 1 et puis bon, qu'ils essaient de parler, on va voir s'ils peuvent rentrer directement s'ils peuvent rentrer en ligne. Comme tout à l'heure d'entrée, je saluais et puis mon fils me disait, oui, c'est ton fils qui est en ligne. Est-ce que tu m'entends si tu es toujours en ligne? Est-ce que tu m'entends? Parce qu'en principe, la technique voudrait que Azo ouvre son micro.
Oui, je t'entends, maman.
Ah, voilà. Alors, voilà. Donc, tu m'entends. Alors, est-ce que tu as des questions de compréhension? Qu'est-ce que bien, tu as un petit commentaire à faire? Tu veux poser une question à l'orateur par rapport à tout ce qui vient
d'être dit? Non, non, non. C'était très... Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Hein.
Ah, tu as appris beaucoup de choses. Parce que ça, aujourd'hui, c'était pour les hommes, mais tu n'as pas écouté pour les femmes. Hein. Donc, je vais t'envoyer pour les femmes après.
D'accord.
Sinon, c'est parfait. Non, là, c'est vraiment... c'est vrai, ça relaxe et puis c'est clair. Quand on est des chrétiens, on doit marcher, on doit vivre selon la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans l'esprit chrétien, nous sommes dans le domaine spirituel, nous sommes dans le domaine de la Bible. On ne parle pas du mariage partout ailleurs, mais on parle du mariage selon Dieu. Et donc,
exactement.
Quiconque est chrétien... Voilà, c'est quiconque est chrétien, la femme chrétienne, voici les règles, la vision de Dieu selon le mariage. Nous, on doit se conformer à ça. Si on ne se conforme pas, ben on échoue. Et ça, je sais qu'il y a eu beaucoup d'échecs parce qu'on ne connaissait pas tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas tout ça. Mais cela soit rendu à Dieu. Pour le futur, je crois que ça va améliorer beaucoup de choses pour les sœurs. Alors, pour les auditeurs qui nous entendent, vraiment, nous sommes désolés. Vous qui êtes surtout en Afrique nombreux, je sais que c'est un sujet qui est toujours attrayant, un sujet qui a toujours beaucoup d'interrogations. Mais là, comme je l'ai dit, hein, Azo doit aller à l'école, il faut qu'il ait le diplôme pour qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Donc voilà, dimanche, il va à l'école. Voilà, donc vraiment, veuillez nous en excuser. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, qui suivent par le téléphone, si vous pouvez rentrer, parler. Et puis, on va échanger comme ça. N'est-ce pas, Papa Moulo? Je crois que c'est tout ce qu'on peut faire.
Absolument, hein? Oui. Nous sommes ouverts, oui.
Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'illustration du règlement du conflit, hein, c'est-à-dire la discipline dans l'Église, quand il y a un problème avec un frère qui a péché, il faut parler avec lui. S'il n'écoute pas, il faut voir avec les anciens, s'ils n'écoutent pas, il faut voir avec le pasteur. Maintenant, s'ils n'écoutent pas, il faut le considérer qu'il soit comme un païen.
Oui, oui, c'est que la Bible dit oui.
Alors, comme vous dites que vous vous appuyez sur ces passages pour régler quelquefois les conflits, alors si dans le cas du mariage, l'un des couples qui suit ces trois étapes-là, s'ils n'écoutent pas, maintenant on sait quoi?
Oui, bon, maintenant, ça dépend maintenant, c'est quoi le problème, quel est le problème. Donc, c'est là, c'est comme on dit souvent, c'est le cas par cas. Donc, on va voir quel est le problème qu'on lui reproche, c'est quoi le problème au juste. Si c'est un problème qui met visiblement en danger, par exemple, la femme, on sait que non, le mari, il court dehors, il se protège pas, et donc, il peut ramener n'importe quelle maladie dans le couple.
Bon, dans ce cas-là, on conseille, pas le divorce, mais la séparation physique. Mais la séparation physique, on dit que non, il faut que tu t'amendes parce que tu ne peux pas revenir comme ça. Tout le monde sait que tu vas dehors, on te voit, il y a des preuves et tout. Et tu ne veux pas t'amender, donc tu mets en danger. On met en danger parce qu'aujourd'hui, on peut attraper n'importe quelle maladie. Et on conseille à la femme de se retirer physiquement de la relation. Relation. Donc ce sont des choses jusqu'à ce qu'il s'amende, jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Donc ça, c'est vraiment le cas par cas, le cas par cas pour pouvoir conseiller un peu la suite.
Ok. Alors, Frère Moulo, ça c'est les conseils que vous donnez en tant qu'ancien de l'Église, tout ça. Mais la Bible dit que la femme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il parle de séparation. Vous-même, vous nous avez instruit sur la séparation.
Alors, oui, la séparation.
J'ai pas fini. Alors, quand vous dites que vous conseillez que la femme parte pour un moment, est-ce que ça ne répond pas à, c'est pas contraire à la séparation dont parle la Bible?
Oui. Donc, la Bible parle de la séparation. La Bible sous-entend ici, c'est le divorce. Hein? Donc, l'homme vient mettre fin, qu'un homme intervient pour mettre fin, pour le divorce. C'est ça dont on parle. Oui, mais ce que nous disons, de ne pas divorcer, mais de se retirer. Parce que même la Bible, quelque part, on dit que l'homme et la femme ne peuvent pas rester séparés longtemps, sauf pour cause de prière, mais après, ils doivent revenir pour qu'ils ne puissent pas s'enflammer et tout. Donc, c'est se retirer. On parle de se retirer physiquement, se retirer physiquement, mais là, le lien du mariage demeure. Hein, le lien du mariage demeure. C'est juste un retrait physique.
Ok. Et si dans le retrait physique, ça devenait maintenant autre chose? Si le retrait physique devient éternel et que chacun prend sa route, parce qu'il y a les carrefours, hein, on se retrouve à carrefour, il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont tout droit. Alors.
Oui. Non, là, je suis tout à fait d'accord. Le retrait physique peut se prolonger. Et là, nous anticipons sur mon prochain thème, qui est dans la séparation et le divorce. La séparation et le divorce.
Okay.
Et nous avons déjà préparé cela, donc nous allons pouvoir débattre de cela au moment opportun.
La prochaine fois.
D'accord. La prochaine fois. Oui, oui.
Ok, je voudrais attirer l'attention de tous les auditeurs que le frère Moulangou, docteur Moulangou, sera encore avec nous le 26 avril. Donc, c'est le 26 avril que nous allons parler du thème du divorce. Est-ce qu'on doit divorcer? Je crois que c'est là que beaucoup de gens vous attendent.
C'est ça.
On doit divorcer ou bien on ne doit pas divorcer? Parce que quand on s'est retiré jusqu'à, on est arrivé au carrefour, maintenant on fait quoi? Donc, tout ça je crois que rendez-vous le 26 avril pour que, selon la parole de Dieu, on puisse
parler de Dieu
véritablement. Voilà.
Oui.
Sinon, comme l'a dit mon fils tout à l'heure, c'est vraiment. On a appris beaucoup de choses et puis d'entrée on riait quand on disait voilà il faut donner des bises, il faut donner, pour certaines femmes c'est par exemple les fleurs, ça fait un déclic, voilà,
c'est ça.
Ce n'est rien pour certains, c'est les grosses sommes, bon,
c'est
ça c'est leur choix. Mais si la personne n'a pas les gros moyens, tu vas faire comment? Mais pour d'autres femmes, c'est des choses. C'est pour cela qu'on riait d'entrer pour dire bon, le bisou. Parce que si le bisou a manqué, aujourd'hui tu n'as pas fait le bisou, alors là tu vas expliquer pourquoi tu n'as pas fait le bisou. Voilà.
C'est ça.
Et je crois que c'est ça. Alors je vais demander à mon fils, quelle est son expérience? Comme il est le seul qui est en direct avec nous, tu vas représenter tous les auditeurs. Alors quelle est ton expérience?
Moi, j'aime le bisou.
Hein. Tu fais les bisous?
Je peux donner des bisous mille fois par jour. Hein. J'aime ça.
Tu aimes donner les bisous à la femme mille fois par jour. Tu peux faire
mille fois par jour.
Bien, voilà. Alors, voilà.
Et puis j'aime mettre un bébé devant la femme. J'aime mettre un bébé.
Ah, ben voilà.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Il faut qu'on le câline, à part les couches seulement qu'on ne va pas lui mettre, mais
voilà.
Le frère Moulangou l'a dit. Voilà, ce sont des petites choses
mais qui ont son importance. Voilà, chers auditeurs, vraiment,
voilà,
on a un très bon moment où on pouvait vraiment échanger, parce que
vraiment.
Je crois que là, c'est une leçon pratique. C'est
oui,
comme,
oui.
On est dans les, comment on appelle ça, les cours, on est dans la pratique. Tu vois, des fois, on va faire les cours théorie, et puis maintenant, on est dans la pratique. Voilà, donc chacune ou bien chacun allait s'exprimer pour dire, bon, moi, voici comment je fais, comme j'ai posé la question à mon fils, et puis il me dit, bon, lui, il aime faire les bisous 1000 fois, 20 fois, et puis il aime être considéré comme un bébé. Voilà, qu'on l'appelle bébé, qu'on voilà. Même des fois qu'on lui mette la nourriture dans la bouche, pourquoi pas? Tout ça, c'est pourquoi Sarah disait Seigneur. C'est ça qu'on
c'est
doit
ça.
Regarder. Voilà. Donc, Frère Moulot, vraiment, je suis embêté que on ne puisse pas passer. Je suis sûr que les auditeurs vraiment voulaient apporter, mais il y a aussi l'autre revers où certains ne sont pas sensibles à toutes ces choses, à tous
c'est
ces
ça,
bisous,
oui.
à tous ces câlins, à toutes ces petites choses. Ils sont plus focalisés sur le futur, sur les grosses choses. Alors, ça là, comment un tel homme comme ça ou bien une telle femme, qu'est-ce qu'on peut faire, Frère Moulot?
Oui, oui, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur parce que ce sont des choses qui s'apprennent. D'abord, il y a, comme je l'ai dit, il y a des conséquences. Il y a des conséquences parce que ça crée vraiment des frustrations. Alors, moi, avant de commencer, d'entrer en profondeur sur ce sujet-là, oui, je négligeais ça. Je pensais que ce n'était pas important. Tant qu'on a un toit sur la tête et on apporte à manger à la maison, c'est l'essentiel. Le reste, c'est vraiment des chichis, comme on dit. Mais nous avons été témoins de voir comment ça peut détruire la vie du couple. Et c'est là qu'il faut réveiller les hommes, que ça ne coûte rien, ça ne coûte absolument rien. Si ta femme te dit que non, il faut que tu me ramènes une fleur tous les samedis, la fleur ne coûte pas cher, fais-le. Ça détend l'atmosphère. Alors les gens qui s'entêtent, vraiment, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça crée des frustrations. Il est important qu'ils partent dans les counseling, qu'ils parlent avec d'autres hommes. Parce que le problème, c'est que c'est un peu la culture, hein, la culture masculine qui fait croire qu'un homme doit être dur, un homme doit être se montrer, il ne doit pas être dans les romances, il doit montrer. C'est vraiment la télévision, quoi. C'est cette culture-là, surtout nous qui avons ce background aussi africain, hein, où vraiment l'homme ne doit pas se montrer tendre, doit se montrer dur. Mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Et le background doit être... On doit détruire cela. On doit comprendre les choses, comment ça marche, comment Dieu nous éclaire, comment l'Esprit de Dieu nous éclaire. Et donc je conseille à de tels hommes d'aller dans les groupes des hommes, discuter de ces choses, de prendre conseil avec d'autres hommes et d'empêcher ces conséquences-là. Parce que nous ne voulons pas venir après pour... colmater les brèches, essayer de réconcilier les gens parce que, comme je l'ai dit, quand l'amertume s'installe, je vous assure que ça tue l'amour, ça devient difficile. Vous allez aller réconcilier un couple, la femme va vous dire, je n'aime plus cet homme. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez parler. À la fin, la femme vous dit, non, je ne l'aime plus. Donc, c'est difficile. Il faut que je sorte seulement de ce mariage. Mais on s'étonne, mais comment vous en êtes arrivé là? Ce sont des négligences qui se sont accumulées et un beau jour, bon, le vase déborde. Donc vraiment, on les conseille vraiment de faire attention à cela et de pouvoir aller avec d'autres hommes, parler de ces choses et faire des sessions de counseling pour essayer d'améliorer ces choses. Et comme je dis, il faut parler, il faut discuter, il faut communiquer. Et ça s'apprend, tout ça, ça s'apprend. On n'est pas né comme ça.
Mais Frère Moulot, on a déjà parlé de ça, mais un partenaire qui refuse de communiquer, qui n'aime pas la communication, ça devient comment?
Ah oui, ça c'est un problème, ça c'est un problème.
Il y a
beaucoup des hommes comme ça, il faut dire même la majorité des hommes n'aiment pas communiquer. Et bon, il y a toute une stratégie, il y a beaucoup de stratégies. Et là, les experts un peu ne se mettent pas vraiment d'accord. Il y a les psychologues, il y a les gens qui ont l'approche religieuse, d'autres l'approche psychologique. Mais bon, d'une manière générale, nous ne conseillons pas que la femme se résigne. Nous ne conseillons pas que la femme se résigne. Tu dis que non, de toutes les façons, il va changer un jour et se résigne. Non, le résignement, non. Nous conseillons la confrontation. Nous conseillons la confrontation il faut que la femme trouve un moyen de faire parler son mari. Donc, ça peut être en lui écrivant des lettres, ça peut être, bon, un jour, elle décide le mois ou bien les deux, trois mois qui suivent de ne pas faire certaines choses à la maison. Ça peut être dans l'intimité, elle dit que non, bon, jusqu'à ce que nous ne parlons pas de ces choses. Il y a un moyen de faire pression pour que le mari comprenne qu'il y a un problème ici dont il faut parler. Et les hommes n'aiment pas parler, naturellement, ils n'aiment pas parler, ils vont éviter. Les hommes sont comme ça, ils vont éviter les confrontations, naturellement. Naturellement, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas être découverts, ils n'aiment pas être mis à nu, ils n'aiment pas être mis sur la table des accusés. Mais nous le faisons au cas par cas. Donc, si une femme arrive au cas par cas, ça dépend un peu du tempérament du mari. Qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape pour l'amener à communiquer? S'il faut faire intervenir une tierce personne, hein, une tierce personne, quelqu'un à qui il a confiance, à quelqu'un qui peut s'ouvrir. Donc, il y a plusieurs stratégies, il faut le faire. Nous ne conseillons pas de se résigner, de laisser tomber comme certaines personnes qui disent « Oh non, toi, sois seulement soumise, continue à prier, laisse-le tranquille. » Non, lorsque le mari est dans son coin, il va croire que tout va bien. La femme ne parle pas, il va croire que tout va bien. Hein, donc, il va continuer à faire ce qu'il continue à faire. Il ne changera pas. Parce que personne n'a parlé. Il faut que la femme parle, il faut que la femme l'embête. Il faut que la femme le mette mal à l'aise pour qu'il prenne ça en considération. Et ça, c'est un point. Il y a d'autres églises, on va vous dire, oh non, toi, simplement, soumets-toi, tais-toi, laisse-moi faire, prie, il va changer. Non, si le mari est dans sa zone confortable, il va continuer dans sa zone confortable jusqu'à ce qu'on vienne de pousser dans sa zone. Donc, il faut continuer, voir les conseils, développer des stratégies pour faire sortir le mari dans sa zone de confort.
Ok. Voilà. Alors, je crois que nous sommes à Parole et Vérité, l'Évangile de temps ancien. Aujourd'hui, nous sommes avec le frère Moulot, docteur Moulangou, de l'église Shalom Gospel Ministry de Sylvain Point. Voilà. Il est docteur, c'est pas docteur en théologie, mais il est docteur des sciences. Donc, voilà, parce qu'il faut préciser, il y a les docteurs en théologie qu'on appelle les docteurs, docteur Adrien, docteur Goulia, docteur, je ne sais pas qui encore, mais lui, il est docteur scientifique. C'est pour ça qu'on l'appelle docteur Moulot. Sinon, c'est un frère, c'est comme vous et moi de l'Église, mais à qui Dieu a donné le ministère de la femme et de la famille, n'est-ce pas?
Voilà. Amen.
Donc, nous sommes avec lui. Et comme je le disais, on ne pourra malheureusement pas prendre vos questions, vos réactions, vos contributions, parce que notre technicien est en train d'étudier. Il est en train de récupérer ses cours. Ici, l'école coûte très cher, donc il faut s'y mettre. Alors, nous allons demander au frère Moulot de faire un résumé, et puis on va boucler l'émission, parce que aujourd'hui, c'était le cas pratique. C'est des conseils. Voilà. Donc, il faut réitérer ces conseils-là, tout simplement. Et puis, on va mettre ça à l'émission.
Oui. Donc, comme nous l'avons dit, merci encore pour cette opportunité. Vous m'avez donné de partager un peu quelques conseils pratiques pour les couples chrétiens, les couples qui craignent Dieu. C'est d'apporter vraiment cette information, d'être sensible à ce que Dieu dit. Dieu dit que le mari doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. Si Dieu conclut sa vision du mariage comme ça, c'est parce qu'il sait très bien que le mari a des besoins que seule la femme peut combler et que la femme a des besoins que seul l'homme peut combler. Et parmi les besoins de la femme, le premier besoin de la femme, c'est de se sentir aimée. Et le mari a donc cette responsabilité de découvrir quelles sont les expressions d'amour que sa femme a besoin et de répondre à cela. Et c'est très important de le faire, parce que lorsque le mari n'est pas conscient de ça, lorsqu'il ne le fait pas, ça crée des problèmes. Et nous avons dit donc que la femme a la responsabilité de communiquer à son mari ce qu'elle attend de lui. C'est sa responsabilité. Si elle ne le communique pas, elle suppose ou elle sous-entend que le mari sait ce qu'il doit faire, chaque fois que le mari ne fera pas cela, chaque fois que le mari ne va pas répondre à son besoin, ça va créer en elle des frustrations. Et ces frustrations sont extrêmement dangereuses pour la femme, pour le couple et pour l'avenir du couple, parce que les frustrations s'accumulent de manière insidieuse. lentement mais sûrement, ça s'accumule. Et lorsqu'elles ne sont pas évacuées, ces frustrations créent, génèrent ce qu'on appelle l'amertume et le ressentiment. Et ça, c'est la recette idéale pour tuer l'amour. Lorsque le cœur est rempli d'amertume, le cœur est rempli de ressentiment, ça étouffe l'amour. Et un beau jour, on se rend compte qu'on a épousé un étranger. Et nous avons dit que ça a des conséquences sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan de l'harmonie du couple. Cela a des conséquences. Donc le mari doit être très attentif lorsque la femme communique ses revendications. Il doit être attentif et faire un effort de répondre à cela. Donc, et la confrontation, comme nous l'avons dit, est biblique. Et donc, ça doit se faire dans l'amour, dans la vérité et dans l'humilité, tout simplement. Et nous avons dit que, à part la communication, la femme doit pouvoir apprendre la soumission. Et nous avons dit que la soumission ne veut pas dire que l'homme est supérieur. La soumission ne veut pas dire que la femme doit se taire. La soumission ne veut pas dire que la femme doit rester à la maison et ne pas avoir des activités à l'extérieur de la maison. La soumission veut tout simplement dire que la femme permet à l'homme d'être le leader, permet à l'homme de pouvoir prendre la décision finale à la maison, car c'est le rôle que Dieu lui a donné et l'homme sera responsable devant Dieu par rapport à ce rôle de leadership. Si le couple se met en prière pour prendre une décision et qu'ils n'ont pas une réponse claire de Dieu et que l'homme sent qu'il faut aller dans un sens plutôt que dans un autre, la femme a l'obligation de suivre son mari, de le supporter et de soutenir cette décision tant que cela ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Donc c'est ça, la soumission, c'est vraiment laisser à l'homme de prendre vraiment la décision finale. Ça, je ne l'ai pas abordé, mais je peux aussi dire qu'il arrive des cas où il y a des hommes qui refusent d'être leader. Et la femme n'a pas le choix, elle doit prendre le leadership à la maison. Il y a des hommes comme ça qui refusent. Il ne prend pas une décision, il s'occupe de rien. La femme n'a pas le choix, mais de prendre le leadership à la maison. Enfin, le troisième point, nous avons dit que la femme doit être respectable. La femme doit inspirer le respect dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, dans sa manière de se conduire, dans sa manière de recevoir les invités, dans sa manière de traiter son mari. Elle doit être une femme respectable. Lorsqu'elle inspire le respect, cela aide à détendre l'atmosphère à la maison. Et finalement, nous avons dit que la femme doit respecter son mari. Ça, nous insistons sur ça parce que il y a beaucoup de choses que les hommes tolèrent, mais il y a une chose que les hommes ne tolèrent pas en général, c'est qu'on leur manque de respect. Souvent, les femmes ne sont pas conscientes de cela. Parfois, elles parlent à leur mari, parfois, elles hausse le temps, parfois elle les traite vraiment comme leurs petits-enfants avec vraiment. Et ça frustre et ça peut donc créer des situations extrêmement dramatiques dans la vie du couple. Donc le respect, c'est très important. Et ce qui fait partie du respect aussi, c'est aussi le fait de valoriser le mari, de reconnaître les points positifs, c'est que le mari fait de bien. De mentionner cela, de l'encourager, de vraiment de le traiter comme son grand enfant, de manière positive, ça fait partie du respect. Et toutes ces choses-là aident à consolider le mariage, aident à stabiliser le mariage, et ça renforce le lien du mariage. Et lorsqu'il y a des problèmes externes qui ne dépendent pas de vous, lorsque cela arrive, vous êtes suffisamment ancré, vous êtes suffisamment liés l'un à l'autre pour faire face à ces problèmes. Mais si vous êtes déjà déstabilisé de par vos négligences, de par la désobéissance à la parole de Dieu, alors quand il y aura des problèmes externes dont vous ne contrôlez pas, votre mariage sera facilement emporté. Donc voilà un peu ce que le Seigneur nous avait mis à cœur aujourd'hui d'essayer de partager. Et malheureusement, nous rendons gloire à Dieu, simplement. Nous espérons que prochainement, on pourra avoir peut-être 5 à 10 minutes pour essayer de réagir si les auditeurs ont des préoccupations par rapport à cela.
Ok. Voilà, merci. Il y avait même la question de l'auditeur, la fois dernière, à laquelle on n'avait pas répondu, qui avait parlé de son mari qui avait eu une connexion en Europe et mm-hmm. voulait aller, qu'elle serait, elle était devenue chiffon à la maison. Je crois que c'est dans la prochaine émission du 20 avril, n'est-ce pas?
Oui, voilà. Oui, tout à fait.
Donc, on va aborder cela. On a noté. Voilà, mm-hmm. donc nous allons noter. Alors, nous allons demander au docteur, au frère Adrien, de prier tout simplement afin que les cœurs, nos cœurs se tournent et que nous puissions véritablement mettre en pratique ces paroles, parce que c'est des conseils pratiques, mais qu'on ignorait. On avait la mauvaise compréhension de cette soumission. Les gens, j'ai vu une vidéo, je vous assure que ça m'a brisé le cœur. Une vidéo, ça se passe en Afrique, je ne sais pas, en Afrique australe, quelque chose comme ça, mais un monsieur qui était en train de battre sa femme. Bon, ça devait être dans une cour commune, la battre avec un bois.
Wow.
Et des gens étaient là, ils regardaient. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel mariage? Est-ce qu'on l'a vendu? Il a battu jusqu'à la perte de connaissance. La vidéo était sur Facebook.
Wow.
Donc, voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on comprenne pour dire que ce n'est pas ça. Mais là, on vient d'avoir les conseils pratiques depuis février jusqu'aujourd'hui. Comment l'homme doit aimer sa femme et comment la femme doit agir aussi pour qu'il y ait l'harmonie à la maison, pour que l'amour puisse avancer. Voilà. Donc, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu prépare nos cœurs et qu'on puisse se mettre dans cet esprit, dans cette vision.
Ok. Donc, nous voulons clôturer par la prière, donc.
Oui, tu clôtures par la prière et puis je dirai au revoir après.
Ok. Prions. Éternel notre Dieu, te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour ta bonté. Seigneur, toi tu nous aimes tant que tu nous éclaires, tu ne nous laisses pas dans l'obscurité, Père éternel, Dieu tout puissant. Lorsque tu nous confies, Seigneur, une mission, tu nous donnes la provision. Seigneur, tu nous as mis, Seigneur, dans la mission du mariage, Seigneur, tu nous donnes aussi la provision. Tu nous donnes ta parole, Seigneur, qui est le livre d'instruction, Seigneur. Nous disons merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions ce soir que tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, puissent, Seigneur, écouter ta parole. Non simplement l'écouter, Seigneur, mais la mettre en pratique, Seigneur. Nous prions que ceux qu'ils ont entendu, Seigneur, qu'ils puissent garder cette parole, que cette parole puisse être une source de bénédiction, Père éternel, Dieu tout puissant, afin que tu puisses te glorifier dans les différents mariages, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, passe, Seigneur, avant toute chose, afin que ton nom, Seigneur, puisse être glorifié, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as permis ce soir que ton message, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être diffusée à travers les ondes. Merci Seigneur pour les couples qui seront restaurés. Merci Seigneur pour les couples qui seront raffermis. Merci Seigneur pour les couples, Seigneur, qui vont revenir, Seigneur, dans le bon sens, Père éternel, Dieu tout puissant. Nous prions Seigneur pour le ministère de cette radio. Père, nous prions afin que tu puisses pourvoir, Seigneur, à tous les besoins techniques, les besoins financiers, Seigneur, pour que cette radio puisse continuer, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Nous recommandons, Seigneur, à ta grâce, Seigneur, maman Dick, Seigneur, afin que tu puisses pourvoir, Seigneur, à ses besoins. Tu connais, Seigneur, ce dont elle a besoin. Tu connais, Seigneur éternel, Dieu tout puissant, ses besoins sur le plan familial, ses besoins sur le plan professionnel, ses besoins, Seigneur, par rapport à ce pays, ô Père éternel, Dieu tout puissant. Nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Laisse, Seigneur, que tu puisses accomplir, Seigneur, la destinée, Seigneur, que tu as prévue pour elle. Merci, Seigneur, pour tout le panel et pour tous les frères et les sœurs, les pasteurs, Seigneur, qui l'accompagnent, Seigneur, dans cette œuvre, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Amen. Amen. Alors, nous étions avec le frère Moulangou et c'était parole et vérité. Aujourd'hui, la famille et les instructions, sinon les responsabilités de la femme pour son mari. Voilà, on se retrouve donc dimanche prochain avec un autre enseignant. Que Dieu vous bénisse, merci de nous avoir suivis. Voilà, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre enseignement, Parole et Vérité, l'Évangile au temps ancien. Et encore une fois, toutes nos excuses à nos auditeurs d'Afrique qui n'ont pas pu avoir réponse à leurs questions. Mais aujourd'hui, je pense que c'était juste des conseils et nous avons été très bien conseillés. Merci à mon fils. Alors, tu as joué un très grand rôle. Je crois que tu vas le jouer aussi dans ton couple parce que tu étais le seul connecté avec l'orateur. Voilà, c'est une grâce. On se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Moulo. À bientôt. Au revoir.
Merci. Bye-bye.